France Inter.
France Inter, le 18-20.
Une semaine en France avec Béatrice Barbus, ce soir une femme aux multiples casquettes, à la fois sociologue, enseignante à l'Université Paris-Est-Créteil, ancienne sportive de haut niveau, ancienne présidente de l'US Ivry et actuelle vice-présidente déléguée de la Fédération Française de Handball. Elle publie aux éditions Les Sportives un essai intitulé « Dirigeante sportive et plafond de verre ». Car même si on nous annonce les premiers jeux paritaires de l'histoire, il y a encore du chemin à parcourir. Cela dit, on revient de loin.
Je n'approuve pas personnellement la participation des femmes à des concours publics. Aux Jeux Olympiques, leur rôle devrait être surtout, comme aux anciens tournois, de couronner les vainqueurs.
Pierre de Coubertin en 1935, on y reviendra. On parlera aussi de celle qui s'est battue pour ouvrir les Jeux aux femmes, Alice Mia. Vous l'avez compris, ce soir, nous allons parler sport, management du sport, MeToo du sport à 98 jours de la cérémonie d'ouverture des Jeux de Paris. Cérémonie pour laquelle il y a encore quelques points d'interrogation.
On a des scénarios de repli. On a une cérémonie qu'on prépare qui serait limitée au Trocadéro, par exemple, voire qui rapatrierait dans le Stade de France, parce que c'est ce qui se fait classiquement.
Voilà, c'était Emmanuel Macron, lundi à 19h. Le journal d'Éric Delvaux à 19h20. Le téléphone sonne ce soir alors que vous commencez peut-être à remplir ou à compléter votre déclaration de revenus. On va s'intéresser aux impôts, à ce qu'ils disent d'une société. Pour participer à cette émission, 01 45 24 7000, le standard est ouvert. Merci à toute l'équipe du 18-20, Irène Ménem à la préparation, Mathias Volant à la réalisation. Merci également à nos standardistes, à notre stagiaire Marie Kévin, ainsi qu'à Ronan Mahé, Marie Potier et David Diboublac qui sont à la technique.
Claire Servagen. Une semaine en France.
Bonsoir Béatrice Barbus.
Bonsoir.
On est ravis de vous recevoir. Je disais que vous étiez maîtresse de conférences en sociologie, agrégée de sciences sociales. Vous enseignez la sociologie des organisations, des ressources humaines, du management à l'Université Paris-Est-Créteil. Vous êtes une ancienne sportive de haut niveau, première femme à avoir présidé un club professionnel masculin.
La première, c'était la présidente de Pontecombo Handball. Mais j'étais la seule. Pendant 5 ans, en effet, parce qu'elle n'était plus. Après.
Voilà, et ça a été toute une aventure. Vous allez nous en parler. Vous êtes aujourd'hui vice-présidente déléguée de la Fédération française de handball et vous publiez aux éditions Les Sportives un court essai intitulé « Dirigeante sportive et plafond de verre ». Pourquoi ce livre ? Parce que au sommet de la hiérarchie aussi, c'est compliqué.
Ah, c'est pas qu'au sommet de la hiérarchie, c'est même de la base des clubs à chaque fois. Donc. Dans une institution, dans une organisation, souvent les organisations en France, y compris sportives, sont pyramidales et plus on va vers le haut de la pyramide et plus c'est compliqué pour une femme, effectivement.
Alors vous commencez cet essai en parlant du cas de Brigitte Henriques, première femme à avoir été à la tête du CNOSF, le Comité National Olympique et Sportif Français. Elle a démissionné l'an dernier, on s'en souvient, après moins de 2 ans passés à ce poste. On se souvient de la crise qui a été provoquée, on était alors à un petit peu plus d'un an des Jeux. Pour vous, cet épisode est emblématique de ce qu'on pourrait appeler le machisme ambiant ?
Oui, de ce que j'ai pu en tout cas entendre, écouter, et ce que je sais, bien évidemment. Oui, le fait qu'elle ait été une femme a joué un rôle sur la façon dont elle a été obligée de démissionner.
Alors on va écouter justement ce qu'elle disait devant la commission d'enquête parlementaire sur les défaillances des fédérations sportives. Oui. C'était le 5 octobre dernier.
Est-ce que le mouvement sportif aujourd'hui est prêt à faire sa révolution, justement, en termes de gouvernance? Pour moi, ça n'est pas le cas. Participer, se donner bonne conscience en disant qu'on est là et finalement ne jamais pouvoir briser le plafond de verre et d'accéder au poste de numéro 1 ou y accéder et que derrière on vous tue directement parce que justement vous contribuez à une révolution, à quelque chose de nouveau. En tout état de cause, ce qu'on constate, c'est que celles qui deviennent numéro 1 ne restent pas longtemps.
Le verdict est sévère.
Le verdict est sévère, les mots sont forts, on vous tue, c'est quand même une formule qui est très très forte, en tout cas que moi je trouve très forte. Et le verdict est en effet très sévère. Elle a eu le courage de le dire ouvertement lors de cette audition. D'autres femmes aussi ont été victimes de telles comportements, mais n'ont pas la possibilité ou l'envie ou le courage, pour des raisons qui leur sont personnelles et tout à fait légitimes, de pouvoir le dire ouvertement. Mais oui, le constat est très très sévère.
Alors en attendant, vous faites un état des lieux des dirigeantes sportives, 19 femmes présidentes de fédérations sur plus de 120 fédération.
Oui. Alors ça peut avoir bougé puisque il y a des fois des gens qui démissionnent en cours et qui voilà.
Et sur les 36 fédérations de sport olympique, 4 seulement dirigées par des femmes, Béatrice Barbus.
Ben oui. Donc, ben oui, 2024, on est en 2024. Alors, on va voir ce que ça donne à la fin de l'année, puisque à la fin de l'année 2024, après les Jeux Olympiques et Paralympiques, il y aura de nouvelles élections fédérales dans toutes les fédérations, et on va voir s'il y a plus de femmes qui briguent des fonctions de présidente, et deuxièmement, qui sont élues. Et crains, hélas, qu'on ne soit pas beaucoup, un nombre plus... Je crois qu'il n'y aura pas un nombre plus important de femmes, hélas.
Alors, on va essayer de comprendre d'où vient cette situation, quels sont les freins aujourd'hui, parce que le constat que vous faites dans cet essai, il recoupe aussi tout ce que vous disiez dans votre précédent livre, du sexisme dans le sport, dont la première édition date de 2016, la deuxième de 2022. On va y revenir, mais peut-être un mot aussi du moment où vous publiez cet essai. 2024, alors qu'on nous annonce les premiers Jeux paritaires de l'histoire de l'olympisme. Ça devrait vous réjouir.
Oui, ça me réjouit, bien évidemment. Je vais pas m'attrister d'une telle nouvelle. Ça me réjouit, mais j'ai envie de vous dire que c'est la suite logique de l'histoire, c'est le sens de l'histoire. Il aura fallu, depuis quand? 1896, c'est ça, 1896, les premiers Jeux. On fait le calcul, 2024, il aura fallu attendre quasiment 130 ans pour avoir des Jeux paritaires. C'est la suite logique de l'histoire. Je me souviens avoir fait un mémoire sur le sport de haut niveau féminin dans la fin des années 80, lorsque j'étais en DEA de sociologie, et il portait donc sur le sport féminin de haut niveau. Et j'avais essayé, par approximation comme ça, de voir un petit peu à quel moment on aurait des Jeux paritaires, justement. Et de mémoire, parce que ça remonte, j'étais arrivée à peu près à 2030, donc 24, 2032, etc. Donc,
pas mal
on
vu.
Est un tout petit peu en avance, mais pas beaucoup.
Pas mal vu. Et je le disais, en fait, on revient de loin. Et on va l'écouter un peu plus en longueur, cette fois, le baron Pierre de Coubertin. En 1935, c'était donc sur les ondes de Radio Lausanne.
Là aussi, les femmes pourraient participer si on le juge nécessaire. Je n'approuve pas personnellement la participation des femmes à des concours publics, ce qui ne signifie nullement qu'elles doivent s'abstenir de pratiquer un grand nombre de sports, mais sans se donner en spectacle. Aux Jeux Olympiques, leur rôle devrait être surtout, comme aux anciens tournois, de couronner les vainqueurs.
Voilà, les femmes ont mis du temps à être acceptées, Béatrice Barbus. Certaines ont joué un rôle fondamental, alors on va quand même en parler. Notamment Alice Millat. Qu'est-ce qu'elle a fait, Alice Millat? Qui était-elle d'abord?
Ah, Alice Millat. C'est un poème, Alice Millat. Alice Millat, c'est une femme qui se marie très tôt, comme à l'époque c'était souvent le cas. Elle part avec son mari en Angleterre. Son mari meurt assez rapidement. Elle se retrouve donc veuve très très jeune, à 21-22, enfin très très jeune. Et c'est là-bas qu'elle découvre le sport, au sens moderne du terme. Elle y fait de l'aviron, elle est d'ailleurs assez forte. Et quand elle va revenir en France, elle va côtoyer certaines femmes féministes de l'époque. Donc on est au début du XXe siècle. C'est un moment quand même crucial pour les mouvements féministes, où il y a les suffragistes et les suffragistes. Et elle va donc considérer que les femmes peuvent et ont le droit de faire du sport. Donc elle va se battre contre le baron Pierre de Coubertin pour... Entre autres, pour faire en sorte que les femmes aient le droit de participer aux Jeux Olympiques dans des disciplines comme l'athlétisme. Elles n'avaient pas le droit, fallu attendre donc 2028.
Et elle va même organiser les premiers Jeux féminins.
Donc
1922,
c'est ça.
Dans le bois de Vincennes.
C'est ça, au stade Pershing, qui existe encore d'ailleurs. Et très grand succès, 20 000 personnes de mémoire aussi, qui vont venir, 7 ou 8 nations qui seront présentes. Donc elle va aussi essayer de fédérer un certain nombre de nations pour que des femmes puissent pratiquer tous les sports. Elle va être présidente aussi de l'association féminine. Elle va aussi introduire, elle va permettre aux femmes de faire du football. Donc des activités qui étaient considérées comme masculines et certainement pas féminines.
Elle n'a pas eu la reconnaissance qu'elle méritait de son vivant, c'est le moins qu'on puisse dire.
Mais elle a été totalement oubliée.
Mais vous battez, vous, pour
elle
sa reconnaissance aujourd'hui?
Comment?
Vous battez, vous, Béatrice Barbus, pour sa reconnaissance aujourd'hui?
Pour sa reconnaissance d'Alice Millat, bien évidemment que je me bats et je me suis battue pour qu'elle ait aussi une statue. Je ne suis pas la seule, j'étais accompagnée avec d'autres personnes, notamment avec les personnes de la Fondation Alice Millat, avec Emmanuelle Loulaj, qui était l'ancienne présidente de la FSGT, Ayodele aussi, Kahuzen, qui est une ancienne athlète. On s'est battu pour qu'elle ait une statue à la place, à côté de Pierre de Coubertin au Comité National Olympique. Ça pas été facile du tout. C'est, pour ma part, c'est un combat qui a pris 7 ans. Et puis, ils ont été quand même jusqu'à mesurer la taille de la statue pour pas qu'elle dépasse d'un centimètre celle de Pierre de Coubertin.
C'est pas vrai.
Donc, tout est possible, là. Oui, voilà. Donc, ça a été loin. Oui, je travaille parce que le travail mémoriel est fondamental pour faire avancer la cause des femmes en général et pas seulement dans le sport. Il faut montrer aux jeunes générations qu'il y a des femmes qui se sont battues pour obtenir le droit de faire ce qu'elles font. Et donc, c'est important, ce travail mémoriel. Trop de femmes ont été oubliées dans l'histoire. Toutes disciplines confondues. Trop de femmes.
En tout cas, on arrive à des jeux qu'on nous présente comme paritaires. 5250 athlètes hommes et autant de femmes. Des primes équivalentes?
Oui.
De ce point de vue-là
Oui, c'était déjà le cas. L'État français donnait des primes équivalentes déjà dans les précédents jeux.
Donc on peut dire que ce sont des jeux paritaires?
Au niveau des participants et des participantes, oui, mais certainement pas au niveau de la gouvernance.
La gouvernance, il y a quand même essentiellement des hommes.
C'est quand même essentiellement des hommes, absolument. D'ailleurs, quand vous regardez les photos, j'ai envie de vous dire, il y a Anne Hidalgo en tant que maire de Paris, et puis il y a Valérie Pécresse en tant que présidente de la région Île-de-France, mais tous les responsables du COJO, c'est-à-dire le comité d'organisation des Jeux Olympiques que vous voyez, en général, ce sont des hommes.
Voilà, mais il y a quand même la présidente du comité paralympique et sportif français qui est Marie-Amélie Le Fur. Ça, faut le signaler, hein, c'est important.
Absolument. Et avant aussi, c'était une femme aussi, Emmanuelle. Donc tout à fait, oui.
Voilà. Alors on va poursuivre.
Et ancienne athlète.
On va poursuivre notre réflexion, Béatrice Barbus, mais on va d'abord s'arrêter sur l'actualité de la semaine grâce à ce mix qui a été mis en onde par Mathias Volant. À la une cette semaine, le compte à rebours pour les Jeux de Paris, mais d'abord un anniversaire lundi, celui de l'incendie de Notre-Dame.
J'étais en France lorsqu'il y a eu l'incendie en 2019. Là, c'est mon premier retour, alors on voulait venir voir l'avancement des travaux.
Bien des raisons de venir à Paris cet été pour les touristes et bien des inquiétudes pour les autorités à 100 jours de la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques. Emmanuel Macron évoque même un possible repli des festivités au Stade de France.
En fonction de l'analyse qu'on fera du contexte, on a des scénarios de repli.
Un éventuel plan B.
On a une cérémonie qu'on prépare qui serait limitée au Trocadéro, par exemple.
Et peut-être même un plan C.
Voire, qui rapatrierait dans le Stade de France, parce que c'est ce qui se fait classiquement.
Étonnement général, y compris du côté de la ville de Paris, le premier adjoint, Emmanuel Grégoire.
Nous n'étions pas informés de ces hypothèses.
Et pendant ce temps, à Olympie, en Grèce,
Olympia, Thespina Lathias,
allumage de la flamme, parti pour un sacré périple, sous les yeux de la maire de Paris, Anne Hidalgo.
Là, on y est, quoi. Cette idée que la flamme va partir d'ici, parcourir les mers, les océans, c'est très, très fort.
La flamme est un magnifique symbole de notre humanité.
Le président du comité d'organisation des Jeux de Paris, Tony Estanguet.
Elle transmet et diffuse les valeurs éternelles de tolérance, de solidarité, partout dans le monde.
Des valeurs qu'Emmanuel Macron a tenu à rappeler lors d'une cérémonie à Vassieux en Vercors, en présence du maire de cette commune, au lieu de la résistance pendant la Seconde Guerre mondiale.
Vous, les plus jeunes, présents ici, retenez qu'un jour, le président de la République est venu à Vassieux, parce que Vassieux fut détruit par la guerre et la folie des hommes.
Car ce n'était pas seulement un temps où les Français ne s'aimaient pas, c'était aussi un temps où des Français n'aimez pas la France.
Retenez que quelles que soient nos origines, quelles que soient nos couleurs de peau, quelles que soient nos religions, quelles que soient nos opinions, nous devons vivre ensemble.
Nous sommes face, malheureusement, à une vague d'extrême droite sans précédent.
Le premier secrétaire du PS, Olivier Faure.
Une extrême droite qui est à près de 40%. Et donc, il va falloir se réveiller.
Mais la gauche part aux européennes plus divisée que jamais, peut-être même irréconciliable.
Quand on est un parti politique, on ne s'affiche pas avec des logos qui nient l'existence de l'État d'Israël.
Raphaël Glucksmann vise Jean-Luc Mélenchon, dont le meeting à Lille, en présence de la militante franco-palestinienne Rima Hassan, a été interdit.
Tous ceux qui ne sont pas absolument d'accord avec le massacre sont immédiatement des antisémites.
À chacun ses 100 jours, Gabriel Attal lui est allé à Viry-Châtillon pour l'occasion parler autorité.
Aujourd'hui, c'est la République qui contre-attaque. Nous avons besoin d'un vrai sursaut d'autorité.
Marine Le Pen, pas convaincue.
Je trouve que l'autorité va à Gabriel Attal comme un tablier à une vache.
36,5 millions d'euros, c'est le montant de la rémunération du PDG de Stellantis en 2023. Les actionnaires l'ont approuvé. Carlos Tavares lui rappelle que c'est parfaitement légal.
C'est une dimension contractuelle entre l'entreprise et moi, comme pour un joueur de foot et un pilote de Formule 1.
Car oui, certains footballeurs gagnent encore plus et ça peut rapporter gros.
Kylian Mbappé, la qualification pour le Paris Saint-Germain.
On a déjà joué Dortmund en poule, donc on les connaît. on va y retourner, cette fois en claquette Bermuda.
C'est sûr que vivre des soirées comme ça en tant que Parisien, c'est grand, mais voilà. On a passé une étape de plus et il faut rester tranquille.
Une semaine en France en compagnie de Béatrice Barbus, sociologue du sport, enseignante à Paris-Est Créteil, vice-présidente déléguée de la Fédération française de handball. Je ne sais pas si vous souhaitez faire un commentaire sur l'une ou l'autre de ces actualités, Béatrice Barbus.
Non, je vais regarder avec plaisir la demi-finale du PSG. Je vais terminer sur l'information sportive.
Mais vous allez me dire qu'il n'y a pas que le foot dans la vie, hein.
Non, il n'y a pas que le foot. Non, il n'y a pas que le foot.
Il y a le handball. Et là, les Françaises et les Français devraient briller l'été prochain.
Ah, devraient, oui.
Les tricolores sont quand même tenants du titre, hein.
On est champions et elles sont championnes olympiques, effectivement, en garçons et en filles. On est le seul sport collectif à l'avoir fait. Et on espère pouvoir le refaire. Et elles et ils espèrent pouvoir le refaire à Paris, ici même. Donc, de la pression, mais une pression plutôt positive.
Voilà, le tirage au sort a eu lieu mardi, si Absolument. Je ne m'abuse. Les tricolores ont pu choisir leur groupe à l'issue du tirage. Olivier Crumbles, l'emblématique sélectionneur des filles, a choisi le groupe B. Il pense que c'était le bon choix.
Il fallait décider assez vite. Alors après, en fonction des scénarios, certains penseront que peut-être ce n'était pas le bon choix. Mais moi, je crois que c'est le bon choix. On va rentrer dans ces jeux assez tranquillement. Il faut savoir que si on avait pris la poule de la Norvège, le premier match, c'était France-Norvège. Et on va les laisser se fatiguer un petit peu en groupe 1.
Voilà, l'objectif, c'est clairement l'or.
Oui, on va pas se cacher, bien sûr, à minima le carré final, mais bien sûr c'est l'or. On va pas se cacher, bien sûr. On a toujours faim au handball. On est tellement un sport mineur au départ, en tout cas, où on a été pendant très longtemps invisibilisé, que, comme le dit souvent, on en discute souvent avec le président, on sait d'où on vient, on n'a pas envie d'y retourner. Donc nous, on est obligé, un peu comme les femmes, on est obligé de gagner. On ne peut pas faire autrement pour essayer d'exister. Donc voilà, oui, on va viser l'or, bien sûr.
Vous êtes vice-président d'une fédération où brillent donc aussi bien les femmes que les hommes.
Et ce n'est pas par hasard.
Justement, c'est ce que j'allais vous dire. Il y a tout un travail qui a été fait, c'est ça?
Oui, absolument, et depuis longtemps, qui ne date pas d'hier. Ça a commencé à la fin des années 90. Vous avez un président de fédération qui, à l'époque, dit « Bon, depuis la Deuxième Guerre mondiale, on a tout mis sur les garçons. Peut-être maintenant mettre un peu des moyens sur les filles. » Et donc, on a commencé à mettre les moyens sur les filles à la fin des années 90, début des années 2000. Et elles sont championnes du monde en 2003. Et puis, l'histoire continue. Elle continue à se construire. Et puis vous avez effectivement en 2003 l'égalité des primes qui sont données par la fédération parce que les filles vont réclamer cette égalité. Certains garçons à l'époque d'ailleurs étaient contre, mais elles l'ont obtenue. Et puis ces dernières années, effectivement, une politique égalitaire, les mêmes moyens en entraînement, les mêmes conditions de pratique, de déplacement.
Des mesures pour staffs. Celles qui deviennent mères?
Bien sûr, depuis au moins 20 ans pour la fédération, c'est-à-dire que si il y a une handballeuse qui devient mère et qui a envie d'emmener à un stage son enfant, il n'y a pas de souci, c'est des choses qui peuvent se faire assez facilement. Voilà, c'est pareil aussi pour les garçons, hein, il faut le dire, si les garçons demandent à amener leurs enfants, je vous rassure ou pas, ça n'est jamais arrivé, bien évidemment.
En tout cas, ça veut dire qu'il y a des choses à faire. Vous plaidez pour... Oui. Faire avancer l'égalité, en tout cas, pour des budgets genrés, notamment dans les collectivités locales, pour voir.
Aux fédérations aussi.
Aux fédérations, pour voir où va l'argent, pour essayer de rééquilibrer les choses.
Ben oui, c'est parce que, c'est pas moi qui le dis, mais certains nombres de féministes l'ont écrit et l'ont crié partout. C'est à partir du moment où vous mesurez pas les choses n'existent pas. À partir du moment où vous ne nommez pas les inégalités, elles n'existent pas. Donc, pour pouvoir les nommer, encore faut-il pouvoir les évaluer. Et c'est pour ça qu'en effet, un budget genré, ça permet d'évaluer l'argent qui est distribué d'un côté, du côté des hommes, et de l'autre, du côté des femmes. Et là, on voit, et là, on met au jour effectivement un certain nombre d'inégalités. Donc, je plaide effectivement pour mettre en place des budgets genrés au niveau des collectivités territoriales, mais aussi au niveau des organisations sportives. Au niveau des collectivités territoriales, pourquoi? Parce que les femmes que nous sommes citoyennes et nous payons des impôts locaux comme les hommes et il n'y a aucune raison que ces impôts locaux soient davantage utilisés, notamment en matière d'équipement sportif entre autres, pour les hommes et moins pour les femmes.
Et vous dites même qu'il faudrait une taxe sur le sport masculin pour financer le sport féminin.
Oui, en matière de solidarité, il existe un principe en France avec la taxe Buffet de solidarité du sport professionnel vers le sport amateur. Comme le sport masculin a pu bénéficier d'un monopole en termes de sponsoring depuis maintenant quasiment un siècle, enfin en tout cas 50 longtemps, au moins ça c'est sûr. Je considère qu'il y a une dette d'opportunité du sport masculin à l'égard du sport féminin. Et donc pourquoi ne pas mettre, sur le même principe que la taxe Buffet, une petite taxe sur le sport masculin qui rapporte pour le reverser au sport féminin qui a du mal à rapporter et à attirer des sponsors et des entreprises.
Voilà, ça pourrait permettre effectivement d'aider les femmes parce que c'est pas toujours facile. Et là j'en viens à ce livre que vous aviez écrit donc en 2016, deuxième édition en 2022, du sexisme dans le sport, un livre dans lequel Béatrice Barbus, vous avez raconté le machisme ambiant, hein, et votre expérience personnelle. Racontez-nous
entre
par
autres,
exemple...
Entre autres, hein, c'est pas seulement mon expérience.
Pas que, mais vous avez raconté les blagues bien graveleuses lors de certaines réunions. Racontez-nous le jour où quelqu'un dans l'assistance vous a dit « je suis votre premier souteneur ».
Je vais lui faire un petit clin d'œil, une petite pensée pour lui, parce que depuis, on est amis, hein, il a évidemment s'est parlé,
ouais,
je sais pas s'il écoute, mais peut-être qu'il écoute. Écoutez, je suis, le jour d'un conseil d'administration, je sais plus, où bref, on est une centaine de personnes dans la salle, donc il y a tous les présidents de ligues régionales, beaucoup de présidents de comités départementaux, et puis les élus fédéraux, et moi, à l'époque, je suis secrétaire général de la Fédération française d'handball et co-responsable du plan de féminisation, et je viens appeler les hommes de notre fédération à essayer de nous aider, de nous accompagner dans la féminisation du handball. Et au moment où je demande ça, je suis debout devant l'auditoire et il y a un homme qui se lève, il dit « je suis ton premier souteneur ». Et là, je vous avoue, Claire, que je ne sais pas pourquoi ce jour-là, mais j'ai été prise d'une émotion. J'ai pensé à ma mère. Et je me suis dit, mais ma mère, c'est pas une pute. Comment on peut dire ça? Comment c'est possible? Et là, il y a un monsieur à côté qui m'a dit, ben, vas-y, défends-toi. J'ai pas eu envie. Là, j'ai pris un coup de poing, là, vraiment. Et je me suis dit, bon, faut pas que je pleure, faut pas que je m'énerve. Donc, j'ai préféré me taire et continuer.
Voilà, et raconter plus tard ce qui s'est...
Et noter en rentrant chez moi sur mon journal de terrain, qui me sert un peu aussi de...
Voilà, qui vous a permis d'écrire ce livre. Hein. Vous
Absolument.
Racontez aussi la première fois, la fois où vous êtes allé à l'Élysée, où quelqu'un de votre délégation a dit au chef de l'État, Monsieur le Président, aussi les meufs de la Fédé. Enfin, toutes ces anecdotes.
Ouais, là aussi, on en a déjà parlé. C'est l'ancien président de la Fédération qui nous présente au président de la République, Emmanuel Macron, les trois femmes. Une qui est présidente de l'Euro 2018, l'autre qui est présidente de la Ligue féminine de handball et moi qui étais secrétaire générale et qui dit au président Macron, je vous présente les meufs de la Fédé.
Voilà. Voilà. Toujours est-il que depuis tout ça, il y a eu MeToo et que le monde du sport a aussi été rattrapé par ce mouvement, parce que c'est vrai que le sport est un monde qui est peut-être encore plus concerné par le machisme, je ne sais pas s'il faut dire ça, le virilisme ambiant. On va en entendre un petit exemple à travers ces propos tenus par le sélectionneur Hervé Renard, actuel sélectionneur des footballeuses françaises. C'était dans les vestiaires lors d'une rencontre contre le Brésil lors du Mondial.
Rappelez-vous la première causerie. Je vous ai dit, on peut mettre un genou à terre. Il y a des moments qui vont être difficiles. Il va falloir passer des obstacles. Est-ce que vous vous rappelez de ces phrases? Eh bien, les obstacles, ils arrivent en ce moment. Et oui, ils sont là. Parce qu'on les envoie pour savoir si on est capable de les passer et de les franchir. Et aujourd'hui, vous allez être capable de les franchir. Et puis après, c'est une autre compétition qui commence. Il faut sortir avec la tête haute, et dès les premières secondes, il faut y aller, là. Là, c'est pas attendre 20 minutes, 25 minutes. C'est on met le starter d'entrée, comme vous êtes capable de le faire, si vous avez envie de le faire.
Cela dit, Hervé Renard s'adresse aux garçons et aux filles de la même façon, Béatrice Barbus.
Oui, certainement. Je l'ai pas entendu parler à des garçons. Oui, certainement. Et là, on a que le son. On n'a pas le langage corporel hein, qui va avec, mais on a entendu hein, qui tape du poing sa main sur. J'ai une petite pensée pour Mélissa Plaza que vous avez reçue aussi à une émission, qui est une ancienne footballeuse professionnelle, parce que elle a commenté ce passage, cette vidéo.
Elle a fait une parodie.
Ouais, et avant
aussi,
elle avait commenté, mais elle s'est fait bien attaquer, insulter sur les réseaux sociaux. Et moi, je me souviens que j'avais eu le même sentiment qu'elle. D'ailleurs, ce discours très viriliste, très très masculin. Voilà, il faut y aller, comme si on motivait les gens en hurlant seulement. Donc voilà, ça illustre tout à fait cette culture viriliste qu'il y a dans le sport.
Voilà, cette culture viriliste contre laquelle vous luttez, notamment à la Fédération Française de Handball, la lutte contre les violences sexistes et sexuelles dans tous les domaines. Ça concerne les images, ça concerne les termes aussi. Et j'ai vu que, par exemple, vous revendiquez le mot d'entraîneuse.
Absolument, oui.
Il faut assumer.
Il faut assumer. Et puis c'est surtout que, comme je le dis souvent, c'est un truc de boomer que d'avoir en tête le terme péjoratif d'entraîneuse. Moi, pendant 4-5 ans, j'ai demandé à mes étudiants qui étaient en amphithéâtre, donc ils étaient 200-300, Qu'est-ce que c'est pour vous une entraîneuse? Ils m'ont tous répondu une femme qui entraîne. Et il y en a aucun qui connaissait. Et j'étais obligée de leur faire chercher sur Google. Et il y en a aucun qui connaissait le terme péjoratif. C'est incroyable.
Donc les choses évoluent.
Oui, et puis surtout entraîneuse, ça s'entend. Donc vous donnez envie éventuellement à des petites filles de faire ce métier ou en tout cas cette fonction. Alors que si vous dites entraîneur, vous dites jamais entraîneur. On dira jamais entraîneur. Là, on l'entend pas. Alors qu'entraîneuse, on entend bien que c'est une femme qui fait fonction d'entraîneur.
À propos de petites filles, vous allez nous raconter dans 3 minutes comment vous avez eu envie de faire du hand et de devenir sociologue, Béatrice Barbus.
Je
Doudou, c'est Jeanne Haddad, meilleure programmation musicale signée Djoubaka.
France Inter, le 18-20. Claire Servageant.
Toujours en compagnie de la sociologue Béatrice Barbus. On va parler de vous maintenant, de votre histoire, Béatrice Barbus, parce que ça mérite vraiment qu'on s'y arrête. Vous avez 58 ans, j'ai le droit de le dire. Vous venez bien de sûr. Créteil, vous avez grandi dans une cité, oui. Fille unique d'une maman solo, comme on dirait aujourd'hui.
Famille monoparentale, j'étais élevée par ma mère, effectivement, mais j'avais un père quand même. Hein,
qui n'était pas si loin que ça, d'ailleurs.
Non, hein. Oui, qui me voyait régulièrement et qui a fait son travail de père comme il fallait, même à distance.
Papa communiste, militant cégétiste.
Absolument.
Vous êtes né un jour de fête de l'UMA.
Eh, ça s'invente pas, mais c'est vrai.
Votre maman était employée aux Nouvelles Galeries et elle était de toutes les manifs. Bref, on dit que vous avez baigné dans une ambiance militante.
Ah, complètement. Militante, ah oui, oui. Les informations, je les regardais. Oui, j'ai une conscience politique extrêmement de façon tôt. Enfin, voilà, dès le collège. Dès le collège, effectivement, je me souviens avoir fait un exposé sur l'apartheid en Afrique du Sud. Vous voyez, j'ai 12 ans. Donc oui, je suis extrêmement politisée dès le départ.
Une cité diverse et mélangée dans laquelle on vous surnommait comment ?
La Gauloise au début, parce que c'est vrai que c'était une cité où sont arrivées les premières générations d'immigrés du Maghreb, mais il y avait aussi des Yougoslaves, des Espagnols. Donc moi, on m'appelait la Gauloise, et puis après, on m'appelait l'Intello.
Alors ça, on va y venir. Mais racontez-moi d'abord comment le hand, c'est une rencontre, c'est quoi? C'est à 11 ans que vous avez eu envie de
faire du hand? J'en ai fait au collège. Et puis au collège, avec les copines, on se marrait tellement bien qu'on a eu envie de continuer en club. Donc on est allé en club, en groupe, avec les copines, faire donc à 11 ans, en effet.
Et vous dites que grâce au hand, vous êtes sortie de votre banlieue?
Oui, parce que c'est le handball qui m'a fait presque traverser les frontières, ne serait-ce que franciliennes. Et oui, quand vous participez au championnat de France, vous vous déplacez partout en France. Déjà, vous découvrez la France. Et puis après, quand j'étais présidente, et puis voilà, vous pouvez aussi aller à l'étranger, en Europe. Donc c'est ça qui m'a fait effectivement sortir de ma cité incontestablement.
Alors, maintenant j'en viens à pourquoi l'intello. Toujours est-il que vous avez voulu... On dit déjouer une forme de déterminisme social, c'est ça? Vous vous êtes dit, je veux faire des études, et vous l'avez dit avec les copines en plus.
Ouais. Certaines d'entre elles, ouais. Après, on s'est perdu de vue, mais il y a une chose qui m'avait frappée, c'est que je voulais pas avoir la condition sociale. Il n'y a pas de mépris dans ce que je vais dire de ma mère. Je voulais pas faire le même travail dans un bureau. Elle voulait que je rentre à la banque, que je sois employée de banque. Il était hors de question. Je sais que je n'aurais pas supporté d'avoir un supérieur hiérarchique, etc. Et puis j'avais envie de m'élever. Et j'ai lu un livre, qui est les mots de Jean-Paul Sartre, qui m'a fait rêver à l'école normale supérieure, et j'ai dit c'est ça que je veux devenir, c'est ça que je veux faire, je veux écrire des livres,
je veux être une intello.
Ouais, c'est vraiment ça que je me disais en plus, c'est vrai. Alors après,
qu'est-ce qui s'est passé? Alors vous êtes allé voir la conseillère d'orientation en première?
Allé voir en première la conseillère d'orientation, je lui ai dit que je voulais devenir professeur de sciences économiques et sociales, parce que j'avais un prof qui m'avait régalé avec cette matière qui est sciences économiques et sociales, et donc j'étais boursière, que j'avais pas beaucoup d'argent, et qu'est-ce qu'il fallait que je fasse? Et elle me dit bon, qu'on fasse l'université, etc. Je dis, mais il n'y a pas une école où on est rémunéré tout en faisant ses études? Elle me dit, oui, c'est une école normale supérieure. Je dis, oui, c'est ça que je veux faire. Et là, elle me répond comme ça, de but en blanc, ah non, mais ça, c'est pas pour vous.
Ça, faut pas dire ça à Béatrice Barbus.
Non, exactement. Vous avez tout compris clair. Il fallait pas me dire ça. Donc, je lui ai dit, écoutez, vous n'êtes pas payé pour me dire ça. Vous êtes payé pour me dire ce qu'il faut que je fasse pour faire normal sup. Et après, je m'en occupe.
Et alors, vous avez fait une prépa. Et vous êtes allé chercher l'intégration à Normale Sup avec les dents, on peut dire ça?
Plus qu'avec les dents, il a fallu que je porte plainte. Donc, la deuxième année où je l'ai passé, la première année, je suis admissible à l'oral, mais je ne l'ai pas. La deuxième année, je suis à nouveau admissible à l'oral. Et là, je reçois un courrier me disant que je suis première sur la liste d'attente. Donc, à l'époque, il y avait 6 places pour ceux qui venaient de l'université et 5 places pour ceux qui venaient d'Hippocagne. Donc, je suis partie en vacances, un mois et demi tranquille. Et puis, fin d'août, ma mère m'appelle et me dit t'as une lettre de Normale Sup. Je fais ouvre-la vite. Et là, elle ouvre et elle me dit il n'y a pas de désistement, tu es toujours première sur la liste d'attente. Et ton classement, tu es 6e. Je fais comment ça, je suis 6e? Donc, j'ai téléphoné à un ami qui était syndiqué. On a pris, j'ai pris le conseil de l'avocat de l'UNEF. À l'époque, c'était l'UNEF. Et puis, j'ai été voir mon prof de droit. Et puis, j'ai été voir, comme on dit, l'avocat des pauvres, celui qui est gratuit à la mairie, et qui m'ont dit que j'avais le droit de porter plainte au tribunal administratif, ce que j'ai fait.
Voilà.
Et j'ai obtenu gain de cause 8 mois après, où j'ai été donc réintégré à l'école normale supérieure.
Voilà, ça s'appelle la volonté. Vous êtes devenu agrégé de sciences sociales.
Alors, c'est la volonté, mais c'est aussi j'ai la haine de l'injustice, et quelqu'un avait été pris à ma place alors qu'on n'avait pas fait les mêmes épreuves, et c'était un fils de député à l'époque.
Agrégée de sciences sociales, Béatrice Barbus, vous avez fait une thèse en sociologie sur sport et entreprise.
C'est
vous enseignez à l'université, après avoir enseigné au lycée, vous donnez des cours en STAPS, en école de commerce, management des ressources humaines dans le sport. Le sport, ça permet d'apprendre justement à manager?
Alors oui. Mais là, dans mes cours, c'est surtout que j'essaye de montrer que dans le sport, on ferait bien d'apprendre les techniques de gestion et de management des ressources humaines de l'entreprise parfois, parce qu'on les manage très mal, les ressources humaines dans le sport. Mais oui, le sport peut apprendre à manager les ressources humaines, et je dis souvent d'ailleurs à des sportifs de sport collectif ou des sportives, il y en avait un dans mon équipe d'ailleurs qui a fait carrière, il est DRH aujourd'hui, parce que on apprend toutes ces questions de cohésion, de management d'équipe, etc. Et donc tout ça, on peut le transférer éventuellement dans l'entreprise, si on y réfléchit, si on prend de la distance. Oui, c'est des chose que ça facilite à mon avis, ouais, tout à fait.
Et donc vous êtes aussi devenue sportive de haut niveau.
J'étais sur la liste pendant 2 ans, sportive de haut niveau.
Première division.
Oui, tout à fait. À Créteil, à l'US Créteil, où j'ai commencé à jouer le handball, et puis après j'ai fini ma carrière à côté dans une ville à Alfortville. Mais on a joué pendant 3-4 saisons au plus haut niveau, et les garçons aussi jouaient au plus haut niveau. Et là je voyais déjà les inégalités entre nous, parce qu'eux étaient rémunérés, pas nous. Nous on galérait pour se déplacer, pas eux. Nous on avait les plus mauvais créneaux horaires d'entraînement, pas eux. Nous on avait les plus mauvais gymnases de la ville, pas eux. Et là je représentais déjà les filles de mon équipe au sein du conseil d'administration. Et à l'époque j'ai beaucoup appris, parce que c'était Jean-Claude Tapie, le président du club.
Le frère de... de
Ouais, donc j'ai beaucoup
appris Bernard.
J'ai beaucoup appris sur ce qu'il fallait faire, mais surtout aussi sur ce qu'il ne fallait pas faire.
Alors, vous avez une double casquette, hein, Béatrice Barbus, puisque vous êtes à la fois sportive de haut niveau, dirigeante, universitaire, enseignante. Deux milieux très, très différents, ça permet de prendre du recul ?
Ah, complètement. C'est complètement à l'opposé, que ce soit au niveau langagier, corporel, vestimentaire. On est dans deux univers complètement opposés. Donc moi, ça me permet effectivement de prendre de la distance. Ça me permet de me ressourcer quand je vais dans l'un, de me ressourcer de l'autre, parce que les deux sont fatigants pour des raisons différentes. Et c'est un bon équilibre que j'ai trouvé entre, en plus, l'esprit, le corps. Donc,
Et pourtant, il vous est arrivé de cacher votre deuxième casquette quand vous étiez à Normale Sup. Au début, vous n'avez pas dit que vous étiez handballeuse.
Non, surtout pas, parce que c'était, même à l'université, c'était très mal considéré, le fait de faire du sport de haut niveau dans les milieux intellectuels en général, c'est très mal considéré. Donc oui, je l'ai caché pendant longtemps, jusqu'au jour où le directeur de Normale Sup a appris que je faisais du handball de haut niveau. Il est venu me voir, et lui, il avait fait du rugby. Et donc là, celui qui lui-même m'avait refusé, d'un seul coup, il était devenu mon copain.
Alors là, vous avez reparlé la même langue. Comment vous faites la part des choses entre votre expérience personnelle et votre rôle de sociologue ? Parce que normalement, il y a une forme de distance qu'on garde quand on est sociologue.
Alors, déjà, j'écris, on a un journal de terrain, donc on met des mots sur le papier, et voilà. Et puis, je laisse passer aussi du temps entre mes expériences et le moment où je vais écrire dessus, pour m'en éloigner sur le plan affectif, qui fait que quand je relis, j'ai l'impression que ce n'est même pas moi. Donc voilà, et puis c'est des habitudes professionnelles que vous en avez très certainement aussi, hein, comment vous faites pour vous mettre toujours à vous parler. Ben nous, c'est pareil, on a des habitudes qu'on acquiert au travers de notre apprentissage et des enquêtes que l'on fait.
Eh ben, très grand merci Béatrice Barbus.
Merci à vous Claire, vraiment.
D'être venue ce soir sur France Inter.
Merci.
Il faut lire ces deux livres. Alors le dernier, je rappelle, Dirigeante sportive et plafond de verre, une histoire inachevée, c'est aux éditions Les Sportives. Et puis évidemment, le précédent, Du sexisme dans le sport, aux éditions Anna Moza. Ça, c'est le gros récit de toute votre expérience. Un très grand merci à vous, Béatrice
Barbus. Merci Claire, merci beaucoup.